100 jours après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, intéressons-nous à présent à la résistance à la politique menée par le président américain et le rejet du populisme qui a toute sa place, notamment dans les élections occidentales, que ce soit en Australie ou au Canada. Pour développer ces sujets, Alix Frangeul-Alves, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinatrice du programme au sein du think tank The German Marshall Fund of the United States pour le département risque, géopolitique et stratégie. Vous êtes spécialiste de politique intérieure et extérieure des États-Unis. Alors déjà, c'est quoi le populisme avec Donald Trump ?
Alors, le populisme avec Donald Trump, j'aimerais, avant d'en venir à ses caractéristiques, parler de cette tendance, en fait, que Trump cristallise, qui n'est pas nouvelle, mais qui se renforce de par son approche aussi agressive, qui est le lien entre la polarisation politique, qui est extrêmement forte aux États-Unis, le populisme, donc, et les mesures protectionnistes promulguées par Donald Trump. Pourquoi je veux parler de polarisation politique avant de parler de populisme ? C'est parce que c'est un cercle vicieux où plus les institutions se polarisent et plus l'opinion publique se polarise également et plus l'opinion publique se polarise, plus les institutions, et ainsi de suite. Ce qui mène donc à ces discours plus extrêmes et donc populistes qui, à leur tour, mènent à des mesures protectionnistes et qu'on doit contextualiser en fait dans cette situation géopolitique mondiale dans laquelle les États-Unis se retrouvent. Ultra tendue avec leurs problématiques internes et aussi entre les conflits au Proche et Moyen-Orient, en Europe et dans leur compétition avec la Chine. Donc, le populisme de Donald Trump se caractérise par plusieurs éléments clés. Tout d'abord, sa rhétorique anti-élite, où Donald Trump se présente comme un défenseur, ce sauveur du peuple oublié face à une élite qu'il voit comme corrompu de cet état profond, le deep state, et donc il affirme représenter ce vrai peuple qui en excluant en fait ceux qui ne partagent pas cette vision-là et qui s'opposent à lui, ce qui polarise davantage la société et délégitime ses adversaires politiques. Donc il construit ce récit où le peuple qu'il incarne serait victime d'injustice. Et donc son programme aussi est centré vraiment sur la défense de la souveraineté nationale et des intérêts surtout économiques américains et comme je disais un peu plus tôt, finalement inclut ces mesures protectionnistes comme évidemment les droits de douane, mais aussi le retrait de traités internationaux comme les accords de Paris.
C'est-à-dire que sa stratégie en fait elle est claire, c'est America First.
Tout à fait. Sa stratégie est très claire, c'est America First, et c'est vraiment l'objectif vraiment central d'America First, c'est la sécurité économique, la prospérité économique des États-Unis. C'est vraiment le fait de rapatrier et de protéger les ressources américaines au profit des États-Unis, vraiment les ramener sur le territoire américain. On parle de relocalisation des chaînes de valeur stratégiques, de réindustrialisation, de stimulation de la création de l'emploi, de la production donc de produits américains aux États-Unis, mais aussi d'utilisation des ressources américaines pour être beaucoup plus agressifs dans leur compétition avec Pékin.
Alors ça c'est le côté américain. Cette résistance en dehors des États-Unis, s'il y en a une, est-ce qu'elle se traduit par un vote progressiste ou centriste ? Bon, je prends deux exemples, le Canada avec les élections fédérales où on a vu la victoire de Mark Carney, et puis là aujourd'hui avec l'Australie, est-ce que cette résistance est importante selon vous ?
Alors, je pense que bien que Donald Trump galvanise les mouvements antipopulistes à travers le monde depuis son retour à la Maison-Blanche, les partis populistes de droite continuent à s'ancrer dans le paysage politique de nombreux pays occidentaux, et ça précède la réélection de Donald Trump. Je prends l'exemple des élections au Parlement européen en 2024 où les partis populistes de droite radicale ont gagné 24% des sièges du Parlement, ou le Rassemblement national en France qui représente près d'un tiers de l'électorat français. Il y a la montée aussi en flèche de l'AFD en Allemagne, Reform UK au Royaume-Uni. Mais si on prend par exemple le cas du Canada, Je pense que la défaite des conservateurs peut davantage s'expliquer par l'effet drapeau dont a profité le parti libéral de Marc Carney, donc, comme vous disiez, le Premier ministre canadien, plus que par une opposition au populisme à proprement parler. Je pense que sur le court terme, il s'agit moins d'une réaction à la menace que représente Trump et sa rhétorique populiste elle-même que d'un rejet de la détérioration de la situation économique au Canada provoquée par les politiques de Donald Trump. Bien que voilà, ce qui préoccupe les Canadiens, si on prend cet exemple-là vis-à-vis de Trump, c'est avant tout l'impact de la guerre tarifaire qui a été déclenchée donc par le président américain sur l'économie nationale, en raison évidemment de l'intégration profonde des marchés canadiens et américains. Juste pour rappeler quand même un chiffre important, plus de 75% des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis, et puis la moitié des importations du Canada en proviennent.
Alix Flangeul-Alves, merci beaucoup pour toute cette analyse. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de programme au sein du think tank The German Marshall Fund on the United States pour le département risque, géopolitique et stratégie.